Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Victor et je suis vraiment ravie de vous retrouver après cette coupure estivale. Je suis ravie de vous accueillir donc à cette première web conférence de Jury Travail de cette nouvelle saison. Donc avant d'entamer cette web conférence qui traitera donc des baux commerciaux, juste quelques mots pour vous présenter Jury Travail pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un grand nombre d'articles sur l'actualité juridique, mais c'est également une très riche base documentaire qui vous donne accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats, ainsi qu'à des dossiers thématiques que nous avons souhaité rédiger dans un langage très clair. Cet abonnement vous donne également accès à notre équipe de juristes, donc qui sont basés à La Rochelle et ils répondent à vos questions par téléphone. D'ailleurs, à la fin de notre web conférence, nous vous communiquerons donc un lien qui vous permettra de tester notre service. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Gratien, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous.
Bonjour à tous et merci à vous pour cette invitation.
Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette web conférence afin de collecter vos premières questions. Nous les avons transmises à notre invité qui va donc y répondre au cours de cette web conférence. Alors, on a prévu 45 minutes et comme d'habitude, on va essayer de s'y tenir. On débordera peut-être un petit peu, mais on essaye toujours de respecter le timing. Et comme d'habitude, vous recevrez à l'issue de cette web conférence, quelques jours après, le replay ainsi que la présentation. Alors, si vous souhaitez poser des questions au cours de la web conférence, je vous invite à les poser plutôt dans l'onglet questions. Enfin, vous trouvez le bouton en bas à droite de l'écran. Et je remercie vivement ma collègue Marine, qui est fidèle aussi aux web conférences et qui vous orientera vers les contenus qui répondent de notre site qui répondent à vos questions. Si vous avez besoin de conseils juridiques, je vous invite donc à contacter Maître Gratien pour lui transmettre vos questions bien précises. Vous avez donc ses coordonnées à l'écran. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, toutes les questions que vous nous avez envoyées ont été regroupées sous trois grandes thématiques. Donc, d'abord les grands principes du bail commercial. Ensuite, nous aborderons ce qu'il faut négocier dans un bail commercial. Et enfin, la cession, la résiliation et le renouvellement du bail commercial. Donc, commençons tout d'abord par les grands principes du bail commercial. Pouvez-vous nous exposer, Maître, ces grands principes et nous présenter le rythme triennal que ce type de bail impose?
Oui, alors le contrat de bail commercial, c'est un contrat qui est à la fois simple, mais en même temps complexe et surtout extrêmement particulier. C'est simple parce que c'est un contrat de location entre un commerçant, un artisan ou un industriel, qu'on appelle soit le locataire ou plutôt le preneur, et un propriétaire des lieux qui est lui classiquement le bailleur. C'est un contrat donc simple de ce point de vue-là, mais surtout très particulier puisque le grand principe du bail commercial, c'est sa soumission à un ensemble de règles d'ordre public qu'on appelle classiquement le statut des baux commerciaux, qui est donc l'ensemble des règles auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. donc c'est contradictoire avec le principe de liberté contractuelle qu'on peut trouver dans le Code civil. C'est un contrat particulier où le législateur a souhaité l'encadrer de manière très forte avec un objectif essentiel, c'est la protection du preneur, donc du locataire. Par ce biais-là, c'est surtout le développement des activités économiques, puisque l'encadrement donc, très fort du bail commercial il permet surtout la fidélisation d'une clientèle pour les entreprises à travers le développement d'une adresse stable et d'une certaine sécurité juridique, puisque on le verra un peu plus en détail plus tard, mais la reprise anticipée du bail est extrêmement encadré, les augmentations de loyers le sont également, et enfin, troisième grand point, c'est le droit au renouvellement de ces bails, ce qui est assez exceptionnel, que par principe, un contrat se renouvelle, quand bien même les parties ne l'ont pas prévu et n'ont pas, par exemple, signé d'avenant. Ensuite, donc, l'autre grand principe du bail commercial, c'est le rythme triennal. C'est aussi un bail qu'on appelle 3-6-9, c'est-à-dire qu'il est rythmé tous les 3 ans. Il dure en principe, sauf exception, 9 années. 9 années durant lesquelles la relation contractuelle est très stable, mais tous les 3 ans, la loi permet certaines modifications et donc notamment une résiliation, puisque le preneur peut résilier à l'expiration de chaque période triennale, sans motif. Le bailleur peut également résilier à l'expiration de chaque période triennale, mais il doit justifier dans ce cas-là des motifs graves et légitimes. Et en dehors de ces périodes-là, donc en dehors de ces échéances de 3 ans, la résiliation est quasiment impossible. De la même façon, tous les 3 ans, lorsque les parties n'ont pas prévu autre chose, il est permis de réviser le loyer du bail commercial selon des règles légales et là aussi encadrées. Et voilà pourquoi on dit que le bail est rythmé par des échéances triennales.
Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, il semblerait que certains de nos internautes aient des petits problèmes avec le son de votre côté. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement rapprocher votre micro. Peut-être
est-ce que ça... c'est mieux comme ça?
Alors, si certains spectateurs pouvaient nous le dire, oui, ils disent que c'est mieux.
Ok, alors très bien. Je vais le tenir pour rapprocher puisque j'avais des problèmes sans casque, donc je garde mon casque dans mes écouteurs et mon micro.
Très bien, merci beaucoup maître. Alors, deuxième question, quels sont les avantages d'un bail commercial pour une entreprise?
Alors, ça reprend ce que j'ai un petit peu évoqué, mais essentiellement pour une entreprise, c'est sa protection, c'est la protection du preneur, puisque ça correspond à l'objectif que s'est donné le législateur, c'est-à-dire stabiliser les activités économiques et octroyer une sécurité juridique aux acteurs économiques, notamment grâce à un bail commercial. Vous êtes certain d'avoir une adresse et une domiciliation stable, puisque vous ne pouvez pas voir votre bail résilié et donc devoir déménager à n'importe quel moment, à moins évidemment que vous ne payiez pas vos loyers ou que vous commettiez des manquements importants. Et donc, vous avez une adresse stable. Vous avez un loyer qui est très encadré et donc, contrairement à d'autres contrats, on ne peut pas augmenter les prix sans raison et sans limite. Et enfin, troisième grand avantage pour le bail commercial, c'est que sa cession est possible. Alors, on le verra là encore plus en détail, mais dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, le principe, c'est que le bailleur ne peut pas s'opposer à cette cession. Il peut, à la limite, l'encadrer, mais la cession reste toujours possible. Et donc, vous avez le droit de vendre votre fonds de commerce sans que votre bailleur puisse vous en empêcher, ce qui est évidemment très intéressant. Et donc les avantages du statut des baux commerciaux, c'est qu'il évite un rapport de force qui est parfois déséquilibré entre certains bailleurs puissants et des petites entreprises, puisque on ne pourra pas vous imposer certaines clauses, car la loi les empêche.
Effectivement, et justement, nous allons enchaîner sur les clauses qui sont obligatoirement présentes dans le contrat de bail commercial. Quelles sont-elles ? Et on a reçu une question un petit peu plus particulière concernant les clauses. Quelqu'un qui nous demandait si la clause de résiliation annuelle au profit du bailleur est valide ou pas. Donc, je vous la reglisse un petit peu. Comment on va aborder les clauses ?
Les clauses, effectivement, la loi prévoit que le contrat de bail doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires. Évidemment, vous avez l'identité des parties, l'adresse, la description des locaux. Vous avez la durée minimale qui est donc de 9 ans, sauf exception. Et on n'aura pas le temps de voir les exceptions, mais de toute façon, elles sont là encore encadrées et souvent déconseillées. Donc, vous avez une durée minimale de 9 ans qui doit être indiquée dans le bail. La destination, c'est-à-dire l'activité pour laquelle le bien est loué, doit être mentionnée et précisée. De même que les modalités de la déspécialisation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer d'activité lorsque vous signez un bail pour telle activité. Vous ne pouvez pas, en cours de bail, sans prévenir votre bailleur, changer totalement d'activité. Ça ne se fait pas, c'est interdit. Et donc, le bail doit prévoir les modalités pour être autorisé à modifier votre activité. Ensuite, évidemment, doit être prévu le loyer et les conditions de la révision du loyer, les modalités de renouvellement du bail, puisque si le droit au renouvellement est inscrit dans la loi, on peut tout à fait moduler la façon dont il va se produire. La loi nous oblige également, depuis 2014, depuis la loi Pinel, à inscrire un inventaire des charges, impôts et taxes et de leur montant et de leur répartition entre le bailleur et le preneur. Vous devez également, ça ressort du PowerPoint ici, mentionner le dépôt de garantie à la charge du preneur et ses conditions, évidemment, ses conditions de restitution. Autre point obligatoire et très important, ce sont les modalités de mise en œuvre du congé ou de la résiliation ou de la clause résolutoire du bail. Voilà, je pense, pour être exhaustif, l'ensemble des mentions obligatoires. Et donc, pour revenir à à la question qui m'a été posée, qui a été donc la clause de résiliation annuelle est-elle possible ? Non, on ne peut pas déroger à la règle et donc au rythme triennal qui interdit justement à un bailleur d'avoir la possibilité de résilier un bail autrement qu'aux échéances triennales de manière extrêmement encadrée et sinon à l'échéance des 9 ans. Donc cette clause, si vous l'avez vue dans un bail, si elle faisait l'objet d'un contentieux, le juge saisi la réputerait nulle et non maintenue ou la réputerait non écrite, c'est-à-dire qu'il n'en tiendrait pas compte et on repartirait sur ce que dit la loi, c'est-à-dire échéance triennale ou échéance des 9 ans et rien d'autre de plus.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, maître. J'étais en train de dire, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui arrivent. Pour Olivier qui vient de demander si la présentation sera transmise, oui, vous la recevrez par email d'ici quelques jours. Alors, donc on va passer, et ça reprend également une autre question qui nous a été envoyée, à notre question suivante sur la différence qui existe entre les baux commerciaux et les baux professionnels.
Oui, alors, Une grande différence déjà dans les principes finalement, puisque si le bail commercial, comme je vous l'ai dit, est très encadré et soumis au statut des baux commerciaux, ce qui est un petit peu une exception par rapport au principe de liberté contractuelle, le bail professionnel, lui, est beaucoup moins encadré et là, on revient de manière beaucoup plus proche du principe de liberté contractuelle. Et donc, ça se voit après quand on reprend point par point. Il y a certaines dispositions impératives qui s'appliquent tout de même au bail professionnel, puisque vous le voyez, la durée minimum d'un bail professionnel, elle est de 6 ans, tandis que celle pour le bail commercial est de 9 ans. Évidemment, les activités concernées ne sont pas identiques, puisque les baux commerciaux concernent les activités commerciales, industrielles et artisanales, alors que les baux professionnels concernent le reste des activités, c'est-à-dire non commerciales, surtout les professions libérales, et les activités de travaux immobiliers. Alors, comme le bail professionnel est beaucoup moins encadré, en fait, il revient aux parties d'en déterminer le contenu. Et donc, vous avez notamment, dans le bail professionnel, la possibilité de le résilier à tout moment. La seule contrainte, c'est que la loi vous dit que vous devez respecter un congé de 6 mois, donc un délai de congé de 6 mois, mais sinon, vous n'avez pas d'échéance triennale et tant le bailleur que le preneur peut résilier le bail, et donc ce qui est beaucoup plus précaire qu'un bail commercial. De la même façon, vous n'avez pas dans le bail professionnel de droit au renouvellement à l'échéance des 6 ans, et donc on peut vous demander de partir. Là encore, différence entre le bail commercial et le bail professionnel, c'est que pour le bail professionnel, vous n'avez pas de révision de loyer qui est expressément prévue dans la loi, c'est-à-dire que si vous n'avez rien prévu avec votre bailleur dans le bail, le loyer ne bougera pas pendant les 6 ans. Alors qu'au contraire, si vous n'avez rien prévu dans le bail commercial avec votre bailleur, il y a toujours la possibilité, à chaque échéance triennale, de faire réviser le loyer. Et enfin, dernière différence importante entre ces deux baux, c'est que si la cession du bail commercial ne peut pas être interdite dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, elle peut l'être s'agissant d'un bail professionnel, et donc il vous appartiendra d'obtenir l'accord dans ce cas-là du propriétaire. Ce qui n'est pas forcément gagné, évidemment.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Venons-en maintenant aux clauses qu'il est important de négocier. La première d'entre elles, c'est bien évidemment le montant du loyer. Donc, comment est-il estimé et donc dans quelles conditions ce loyer peut-il éventuellement être revu tous les ans ?
Alors, la question du loyer est un vaste sujet en matière de bail commercial et source de contentieux importants. Le montant initial du loyer n'est pas réglementé. Donc, c'est-à-dire qu'il est fixé librement entre les parties au contrat et le propriétaire n'est pas tenu par le loyer du locataire précédent ou par de quelconque loyer de référence. Donc, à votre arrivée dans les lieux, on est purement sur de la négociation par rapport à la valeur locative. Les professionnels qui nous écoutent sauront certainement mieux négocier que moi et mieux appréhender cette valeur locative. Mais voilà, c'est là, pour le coup, c'est le principe de liberté. Évidemment, il faut avoir en tête que généralement, si le bail est prévu pour tout commerce, ou en tout cas, plus vous avez d'activités possibles dans le bail, plus le loyer sera élevé. Ensuite, évidemment, vous le savez, en plus du loyer, vous aurez le dépôt de garantie et éventuellement une autre somme importante à régler, c'est le droit d'entrée qu'on appelle pas de porte, qui peut être réclamé par le propriétaire lorsque vous arrivez dans un dans des locaux qui étaient inoccupés. En revanche, si la fixation initiale du loyer est libre, en revanche, la révision du bail, donc vous le savez, elle est très réglementée et peut-être cette révision du loyer, elle peut se faire de trois façons. Si vous n'avez rien prévu dans le bail, vous avez toujours la possibilité d'une révision triennale. Donc, ça ne sera pas une révision annuelle, mais tous les trois ans, après la signature, vous pouvez faire jouer cette clause de révision qui, même non insérée dans le bail, est prévue par la loi. Alors, vous pouvez y avoir intérêt même en tant que locataire, puisque on dit que cette révision, elle suit l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou l'indice trimestriel des loyers tertiaires. Donc, si ça vient à la baisse, le locataire peut avoir intérêt à demander cette révision triennale, même si c'est plus souvent le bailleur qui va effectivement tenter de faire jouer ce droit. Ce droit, très simplement, il s'exerce par une demande en révision qui est formée 6 mois avant l'échéance triennale, par un acte d'huissier de justice, aujourd'hui ils sont dénommés les commissaires de justice, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ensuite, soit vous trouvez un accord entre parties, dans ce cas-là, le loyer est révisé. S'il n'y a pas d'accord, on en vient jusqu'à une procédure devant le juge de loyer, on pourra y revenir si besoin. La révision annuelle, elle, reste possible, mais il faut l'avoir expressément prévu dans le bail. Et vous avez deux grandes façons de le faire, c'est l'insertion d'une clause d'échelle mobile ou d'une clause de recette. Alors, la clause d'échelle mobile, c'est tout simplement convenir que votre loyer sera automatiquement révisé à une échéance annuelle selon la variation d'un indice de référence que vous aurez mentionné dans le contrat. Ça peut très bien être l'indice trimestriel des loyers commerciaux, mais ça peut être aussi être un autre indice que vous choisissez avec le bailleur. Encore faut-il que cet indice corresponde à votre activité et qu'il respecte les exigences du code monétaire et financier. Mais si vous avez prévu une telle clause dans votre bail, le loyer est automatiquement révisé à l'échéance sans avoir besoin d'exercer aucun recours, aucun droit, ni d'émettre aucun acte d'huissier. C'est-à-dire que votre bailleur, il aura simplement à vous envoyer un avis de loyer révisé et ça sera absolument incontestable. De la même façon, vous pouvez prévoir une révision annuelle par le biais d'une clause de recette qui est un petit peu plus particulière, c'est-à-dire que votre loyer sera indexé en tout ou partie sur la variation de votre chiffre d'affaires, ce qui se fait essentiellement dans les centres commerciaux.
D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, il y a certains internautes qui nous demandent que vous fassiez vraiment attention à bien parler proche du micro, oui. Parce qu'il y a des moments où on vous entend un petit peu moins.
Pardon.
Autre petite question qui avait été glissée, et ça peut faire partie aussi d'objets de négociation. Un de nos internautes, son bailleur exige un deuxième dépôt de garantie. Donc, est-ce que c'est légal est-ce que ce dépôt de garantie est sujet à intérêt?
Alors, non, si vous avez signé un bail qui prévoyait un dépôt de garantie, que vous avez déposé cette garantie et qu'on vient plus tard vous réclamer un deuxième, un second dépôt de garantie, non, vous n'êtes obligé à rien dans la mesure où vous n'avez rien signé et vous n'avez pas d'accord entre les parties là-dessus. Si ce n'est pas prévu dans le bail, vous n'avez pas d'obligation là-dessus et évidemment, vous pouvez refuser. Voilà, et ensuite, effectivement, il y a la question du dépôt de garantie qui peut être soumis à intérêt à partir du moment où la valeur du dépôt de garantie dépasse 2 mois de loyer. Donc aujourd'hui, si vous dépassez 2 mois de loyer, vous aurez le droit à des intérêts lorsque le dépôt de garantie vous sera restitué. Donc, le bailleur ne doit pas vous verser des intérêts en cours de bail, mais c'est une fois que le bail sera résilié donc certainement dans plusieurs années, vous aurez le droit à ce que votre dépôt de garantie vous soit restitué, plus des intérêts.
Très bien, merci beaucoup. Alors, l'heure passe, enfin tourne à toute vitesse. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Donc, une autre question concerne la clause résolutoire. Quelle est-elle et qu'implique-t-elle ?
Oui, alors, je vais essayer d'accélérer et tout en essayant d'être clair. La clause résolutoire, c'est très simple et je pense que c'est connu de tous. C'est simplement une clause qui prévoit généralement que à défaut du paiement d'un seul loyer, le bailleur peut vous délivrer un commandement de payer via un huissier de justice et que si vous ne payez pas votre loyer sous un mois, il a ensuite, lui, la possibilité de faire constater la résolution du bail. C'est une clause très importante et évidemment dont on se sert, nous, en tant qu'avocats, tous les jours au tribunal. Ça nous permet, en fait, d'accélérer considérablement la procédure de résolution et de résiliation du bail, puisque dès lors qu'elle est prévue, on a le droit de saisir ce qui s'appelle le juge des référés du tribunal judiciaire, et ce qui est en réalité une procédure d'urgence qui prend 2-3 mois. Donc pour nous, c'est très rapide en tant que professionnel de la justice. Pour les clients en général, ça reste déjà beaucoup trop long. Mais si vous n'avez pas de clause résolutoire prévue dans votre bail, vous vous retrouvez à devoir demander une résiliation de bail au fond, c'est-à-dire non pas devant le président du tribunal judiciaire, mais devant le tribunal judiciaire lui-même. Et là, la procédure, c'est au minimum 2 ans de procédure. Donc, vous avez intérêt, effectivement, quand vous êtes bailleur, à avoir inséré une clause résolutoire pour accélérer les choses en cas d'impayé ou de manquement grave du locataire.
D'accord, très bien. Alors, on a décidément pas mal de questions sur le dépôt de garantie. On a une autre qui vient d'arriver à l'instant. Qu'en est-il de la mise à jour du dépôt de garantie indexé sur le loyer ? En fait, oui, si le dépôt de garantie est indexé sur le loyer et que le loyer augmente, ça impliquerait une augmentation du dépôt de garantie. Est-ce que c'est légal ou pas ?
Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse ici. Je n'ai jamais eu le cas. A priori, je dirais qu'on pourrait prévoir ça. Mais j'ai mis quelques réserves. Ça mériterait quelques recherches. Je suis incapable de vous répondre là tout de suite.
Donc, n'hésitez pas, Daniel, à contacter Maître Gratien à l'issue de la webconférence. Je vous redonnerai ses coordonnées à la fin. Autre question qui concerne cette fois-ci la sous-location. Il y avait une question qui nous avait été envoyée aussi à ce sujet. C'était pas tout à fait à ce sujet. La question qui était arrivée, c'était sur un transfert de bail et ça, on abordera ça en deuxième partie. Là, ça concerne la sous-location. Est-ce qu'elle est toujours possible dans un contrat de bail commercial et que peut-on négocier à ce sujet ?
Alors, non. Au contraire, elle n'est pas toujours possible puisque par principe, le code de commerce vous dit que sauf stipulation contraire, la sous-location est interdite. Donc, si vous n'en avez pas parlé dans votre bail, si vous n'y avez pas été autorisé, vous n'avez pas le droit de sous-louer votre bail commercial, même en partie. D'où évidemment l'intérêt de le négocier avec votre bailleur dès l'origine, puisque sinon il faudra passer par un avenant, ce qui est toujours beaucoup plus compliqué que de négocier ça lors de la signature initiale. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir négocier son autorisation et ensuite les modalités dans lesquelles vous pouvez sous-louer. Notamment, est-ce que cette sous-location sera soumise à un agrément du bailleur ou à une simple notification pour l'en informer ? De quelle manière est payé le loyer à partir du moment où vous soulevez ? Des choses comme ça sont importantes de régler. Et donc, effectivement, j'attire quand même votre attention sur le fait que c'est très important d'avoir cette autorisation puisque le non-respect de cette interdiction de principe est une faute pour le locataire et qui justifie, selon la jurisprudence, la résiliation anticipée du bail ou l'absence de renouvellement et sans indemnité d'éviction, évidemment, puisqu'on est en présence d'une faute grave du preneur.
Très bien, merci beaucoup. Alors, venons-en maintenant aux charges et aux travaux. Comment se répartissent-ils entre le bailleur et le locataire ?
Alors, avant 2014, les choses étaient assez libres et ça relevait surtout de la négociation. Depuis la loi Pinel de 2014, la loi nous dit que le contrat de bail doit donc inclure un inventaire précis et limitatif et répartir les charges et les dépenses entre le locataire et le bailleur. Et donc, une fois que vous avez listé toutes ces dépenses, toutes ces charges dans le bail, vous devez les répartir. Et là, la loi vous dit que certaines charges doivent rester à la charge du propriétaire, donc c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous les imputer. Classiquement, vous avez les dépenses qui sont relatives aux grosses réparations qui touchent au bâtiment, aux murs de soutènement, etc. Vous avez les dépenses relatives aux travaux qui sont liés à la vétusté et à la mise aux normes des locaux, les honoraires de gestion pour le recouvrement des loyers du local, et certains impôts, taxes, redevances qui sont liés à la propriété des locaux. Donc, tous ces éléments doivent rester à la charge du propriétaire et s'il cherche à les imputer au preneur, on sera en présence d'une clause qui sera alors réputée non écrite. En revanche, la loi, dans un second temps, nous dit certaines charges, impôts et taxes peuvent être mise à la charge du locataire. Et donc là, il s'agit évidemment des dépenses courantes d'eau, de fourniture d'énergie, dépenses d'entretien et de réparation courante, la peinture, les appareils de chauffage, etc. Les dépenses d'équipement de la copropriété, notamment la quote-part sur les frais de réparation et d'entretien des ascenseurs, les travaux d'embellissement, mais avec la précision dont le montant excède le coût de remplacement à l'identique, et les impôts, taxes et redevances qui sont liés à l'usage du local. Donc, pour ces dernières dépenses, on est dans le cadre de la négociation, c'est-à-dire que ça peut être mis à la charge du locataire, comme ça peut ne pas l'être. En général, ça reste à la charge du locataire, mais voilà, ça reste de la liberté contractuelle sur ces derniers points.
Très bien, merci beaucoup. Alors, en cours de bail, donc les conditions peuvent être amenées à évoluer. Il est tout à fait possible de prévoir, de rédiger un avenant au contrat de bail initial. Quand doit-on prévoir la rédaction d'un avenant ?
Alors, ça va être rapide. À chaque fois que vous souhaitez modifier une condition essentielle du bail, et à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez oublié un point important, ou alors que votre activité change, notamment la surface louée change, il faut impérativement signer un avenant. Si vous souhaitez changer d'activité ou changer la destination du bail, il faut là encore faire signer un avenant. Vous pouvez après, pour tout un tas de raisons, si vous voulez modifier certaines révisions de loyer, d'autres modalités comme le renouvellement, là encore il faudra un avenant, et donc j'ai envie de dire tout ce qui bouge doit être fixé dans un avenant, mis à part les révisions qui sont déjà prévues, les révisions de loyer qui sont déjà prévues dans le bail, ou les révisions triennales légales. Et il y a encore un point important où on rédige beaucoup d'avenants, c'est en réalité c'est les baux qui ont été signés antérieurement à 2014, puisqu'en 2014 il y a eu une loi importante, la loi Pinel, et donc notamment qui prévoit, par exemple, là, on vient d'en parler, sur l'inventaire des charges, qui est désormais obligatoire. Avant c'était pas prévu, et donc il y avait beaucoup de baux qui ne le comprenaient pas, et donc pour se mettre à jour et pour être en toute légalité, on signe généralement un avenant au bail.
pour tenir compte des modifications de la loi Pinel.
Exactement.
Voilà, donc ça répond à la question de Daniel qui avait signé un bail en 2013. Voilà. Donc pour se mettre en conformité avec la loi, il est plus judicieux de signer un avenant à votre bail. Alors, venons-en donc maintenant à notre dernière partie sur la cession, la résiliation et le renouvellement du bail. Donc, le preneur ou le locataire a-t-il la possibilité de céder son bail commercial et dans quel cas faut-il envisager de le faire et comment se déroule cette cession d'un bail commercial? Et nous avions donc une question sur le sujet de quelqu'un qui souhaitait transférer son bail à une autre entreprise d'un même groupe. Est-ce qu'on doit obtenir l'accord du bailleur ou pas?
Oui, alors, effectivement, en principe, c'est l'un des avantages des baux commerciaux, c'est donc que la cession d'un bail commercial est possible et libre et qu'elle ne peut pas être interdite. En revanche, elle peut quand même être strictement encadrée et il faut ici distinguer deux types de cessions. Vous avez donc la cession du bail à travers la cession du fonds de commerce, donc qui va englober le droit au bail, et vous avez la cession du bail en lui-même, le bail seul. Donc là, si on revient à la question qui est posée sur le transfert de bail à une autre entreprise du groupe, on serait plutôt, je pense, sur une cession du droit au bail seul, c'est-à-dire que vous souhaitez vendre votre droit au bail, mais vous ne l'englobez pas dans l'activité de votre entreprise, c'est-à-dire que vous ne vendez pas votre fonds de commerce, vous souhaitez simplement, par exemple, déménager et conserver votre clientèle, et c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser votre local, mais pour faire autre chose, quand bien même ça serait une activité similaire. Alors, dans ce cas-là, ça ne conduit pas à la conclusion d'un nouveau bail, et vous n'avez pas d'augmentation de loyer. Mais s'agissant du droit au bail seul, vous êtes obligé d'avoir l'accord du propriétaire. Donc, vous ne pouvez pas, en l'occurrence, céder ou transférer votre droit au bail, quand bien même il s'agit d'une société d'un même groupe. Vous n'avez pas le droit de le faire sans l'accord du propriétaire. Alors, il faut toujours reprendre votre bail pour voir si cette possibilité n'était pas prévue. Si elle n'est pas prévue, vous serez obligé d'aller demander expressément l'accord du bailleur. C'est parfois prévu, parfois non, donc à vérifier. Ensuite, deuxième possibilité de cession du bail, c'est à travers une cession de fonds de commerce. Et là, dans ce cas-là, le bailleur n'a pas le droit de s'opposer à la cession, puisque la cession de fonds de commerce, finalement, ne va pas changer grand-chose pour lui. Il aura un locataire qui aura la même activité et la même clientèle. Mais, particularité, c'est que le bailleur peut avoir prévu dans le bail initial un certain nombre de conditions s'agissant d'une éventuelle cession de fonds de commerce. Et donc, régulièrement, vous avez dans votre bail soit une clause d'agrément, c'est-à-dire que le propriétaire veut être informé dans le cadre d'une cession de fonds et veut donner son accord sur la personne ou la société à qui vous envisagez de vendre votre fonds. De même, parfois, il est prévu que la cession de fonds et donc la cession du bail se fera par un acte notarié. Et très, très fréquemment, et c'est ce que tous les professionnels du droit vont conseiller à leurs clients bailleurs, c'est d'insérer une clause de solidarité. C'est-à-dire que lorsque vous cédez votre fonds de commerce, vous en profitez pour céder votre bail, mais il faut être très vigilant puisque vous restez solidaire des loyers et charges pendant 3 ans si une clause de solidarité est prévue dans votre bail. Ce qui veut dire que si vous vendez votre fonds de commerce à une société qui, dans les 3 années qui suivent, se retrouve avec des impayés de loyer, le bailleur, alors il doit respecter certaines procédures, mais le bailleur peut tout à fait venir vous réclamer à vous le paiement des loyers impayés. C'est un point extrêmement important et il faut être vigilant là-dessus. Ensuite, sur les formalités de la cession, voilà, c'est assez classique. Il faut surtout en général vérifier ce qui était déjà prévu dans le bail pour pas faire d'erreur de procédure. On conseille de faire évidemment un état des lieux une fois que la cession a eu lieu, que ce soit entre le bailleur et le locataire sortant et le locataire entrant. Et puis évidemment, quoi qu'il arrive, la cession doit être notifiée au bailleur. On conseille là encore par voie d'huissier de justice pour voilà, pas avoir de problème ensuite et qu'il soit parfaitement informé de la cession du bail.
Très bien. Alors, petite question sur la résiliation du bail commercial. Quand et comment peut-on résilier son bail et quelles conditions un bailleur doit-il respecter si lui, de son côté, il veut mettre un terme au bail? Et quand peut-il le faire?
Alors, je vois que l'heure tourne, donc j'essaye d'aller vite encore, mais j'ai du mal.
On aura quelques minutes de retard. Il nous reste juste 3-4 questions à aborder encore.
Je fais vite, au plus vite. Alors, du côté du preneur, c'est très simple. Vous pouvez résilier donc à l'échéance triennale, tous les 3 ans, avec un congé de 6 mois, et ça, sans motif. Vous pouvez, de manière très exceptionnelle, résilier hors échéance triennale, dans des cas très particuliers, pour faire valoir vos droits à la retraite en cas d'invalidité ou en cas de décès. C'est le seul cas où vous pourrez sortir de ces échéances triennales. S'agissant du bailleur, en principe, la seule fin de bail, c'est à l'échéance des 9 ans, puisqu'il peut refuser le renouvellement, il a tout à fait le droit, avec ou sans motif. Simplement, la distinction, c'est que s'il n'a pas les bons motifs, il devra payer une indemnité d'éviction. Mais ça reste un droit pour lui de ne pas renouveler le bail à l'échéance des 9 ans. Et par exception, c'est plus rare, le bailleur peut aussi résilier le bail aux échéances triennales, mais il doit alors justifier d'un motif grave et légitime. Donc, dans ce cas-là, c'est soit des manquements du bailleur, du locataire. Notamment, enfin, n'importe quel manquement, des impayés ou autres, des nuisances. Et plus généralement, c'est surtout quand il est contraint de réaliser des travaux importants parce que l'immeuble est insalubre et qu'on lui a notifié un arrêté de péril, pour des travaux de reconstruction ou des gros travaux de surélévation. Dans ces cas exceptionnels, le bailleur peut résilier à l'échéance triennale, mais il devra vous payer une indemnité d'éviction à moins de vous proposer un local équivalent, mais encore faut-il qu'il le trouve. Et enfin, les deux parties peuvent résilier le contrat à tout moment, sous réserve de justifier de manquement de l'autre partie. Donc, le bailleur peut notamment soit faire jouer la clause résolutoire, soit même demander la résiliation judiciaire du bail si vous ne payez pas vos loyers, mais le preneur peut également tout à fait solliciter la résiliation de son bail à tout moment si le propriétaire venait à commettre des manquements importants.
Très bien, merci beaucoup. Alors, quelques mots maintenant sur l'indemnité d'éviction, justement, vous en avez pas mal parlé juste avant. Dans quel cas précis une entreprise peut-elle percevoir cette indemnité?
Alors, dans deux cas, si votre bailleur reprend de manière anticipée le bail à une échéance triennale en invoquant des motifs graves et légitimes, vous avez le droit à une indemnité d'éviction. Sauf s'il invoque des manquements de votre part, mais si par exemple il invoque des travaux, vous avez le droit à l'indemnité d'éviction. Dans ce cas-là, le bailleur cherchera à l'éviter en vous proposant un local équivalent. Mais souvent, en réalité, c'est pas un local équivalent et il se retrouve à devoir vous payer une indemnité d'éviction. Ensuite, deuxième cas de paiement de l'indemnité d'éviction, c'est lorsque un congé est donné au preneur à l'échéance des 9 ans et là, il n'est pas invoqué de motifs graves et légitimes à l'encontre du locataire. Donc, à partir du moment où on ne vous reproche rien, vous avez le droit à une indemnité d'éviction qui est une somme d'argent qui compense le préjudice que l'entreprise du locataire subit par le fait de devoir déménager son local.
Très bien.
Juste le point important, c'est que l'indemnité d'éviction est un droit important, mais le preneur n'y a le droit, donc le locataire n'y a le droit que s'il a exploité son fonds de commerce dans les trois dernières années en continu.
Très bien. Alors, une petite question qui nous est arrivée sur l'indemnité d'éviction. Comment se calcule-t-elle ?
Alors, très souvent, c'est compliqué dans la mesure où vous avez un bailleur qui va évidemment pas vous en proposer et un preneur qui va en réclamer. À partir de là, il peut y avoir des discussions. En réalité, normalement, ça correspond au préjudice subi par l'entreprise par le fait de devoir déménager. Donc, ou bien ça correspond à un préjudice qui engendre la fermeture de l'entreprise parce que en fait votre entreprise, le local que vous aviez est complètement irremplaçable et le fait de déménager ne va pas permettre votre poursuite d'activité, donc ça correspond à la perte de cette entreprise. Ou bien vous êtes susceptible de déménager pas très loin, et dans ce cas-là, le préjudice, l'indemnité, on va la calculer en fonction du préjudice exactement subi, c'est-à-dire les frais de déménagement, l'éventuelle perte de chiffre parce que vous avez perdu un peu de clientèle, etc. Mais c'est évidemment très compliqué et c'est très très contentieux. Généralement, le tribunal judiciaire se retrouve saisi de cette question et lui-même se considère souvent incompétent pour trancher cette question et donc il fait appel à un expert judiciaire. Un expert de cette question pour rendre un rapport qui va permettre de chiffrer précisément le montant de l'indemnité due.
Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, abordons le renouvellement du bail commercial. Comment se passe le renouvellement d'un bail commercial et sur quel sujet doit-on être particulièrement vigilant?
Alors, très simplement, à la fin du bail, donc le preneur ou le locataire, enfin le locataire ou le bailleur, pardon, notifie un congé avec ou sans offre de renouvellement à l'échéance. Donc, cette notification de congé, elle permet de dire soit je mets fin au bail, soit je demande le renouvellement et avec ou non révision. De loyer, avec proposition de révision de loyer. Dans ce cas-là, c'est quand même souvent le bailleur qui va le faire. Le preneur a plusieurs possibilités. Soit il accepte le renouvellement et le nouveau prix proposé, soit il refuse tout simplement et donc il quitte le local. Troisième possibilité, c'est qu'il accepte le renouvellement, mais il refuse le montant qui est proposé. Et donc là, on revient au débat sur le loyer, qui peut se terminer parfois devant le tribunal, où donc le bail est renouvelé, ça, il n'y a pas de question et pas de souci là-dessus parce que toutes les parties le veulent, mais on va avoir une discussion sur la fixation du loyer où le bailleur, lui, va toujours chercher à l'augmenter et à jouer du déplafonnement et le preneur va plutôt essayer de faire l'inverse. Si vous ne faites pas d'acte d'huissier à ce moment-là, à l'échéance du bail, vous risquez de vous retrouver avec un bail qui est renouvelé, certes, mais uniquement tacitement, c'est-à-dire qu'aucune des parties n'a réagi. On se dit souvent c'est pas très grave parce que le bail se poursuit, mais il faut être très vigilant là-dessus, parce que si votre droit au renouvellement est un droit d'ordre public, pour en bénéficier, vous devez bien avoir exploité votre fonds dans les trois dernières années. Donc, en continu. Donc, si vous n'avez pas exploité pendant une certaine période de ces trois dernières années, vous n'avez pas de droit au renouvellement. Donc, si vous n'avez pas réagi à l'échéance, en réalité, votre bail ne sera pas renouvelé tacitement. Et il faut être encore plus vigilant en cas de cession dans les trois dernières années avant l'échéance du bail, puisque cette question de l'exploitation pendant 3 ans avant l'échéance du bail, elle va concerner également le nouvel acquéreur du fonds de commerce et il ne va pas pouvoir faire jouer votre ancienneté à vous si vous lui avez vendu votre fonds. C'est-à-dire que vous avez une cession qui intervient dans les 2 ans avant l'échéance du bail. Le nouvel entrant va avoir un droit au bail restant de 2 ans, mais il n'aura pas de droit au renouvellement puisqu'il n'aura pas exploité pendant 3 ans Le fonds de commerce, c'est un point extrêmement important et il faut être vigilant là-dessus. Et c'est pour ça donc que dans ces cas-là, lorsqu'on a une cession dans les 3 dernières années du bail, il faut impérativement faire intervenir le bailleur à la cession pour soit nous signer un nouveau bail, soit qu'il donne son accord express pour un renouvellement. Et autre point de vigilance sur le renouvellement tacite qui est en réalité un piège, même si on pense a priori que c'est une facilité, puisque à partir du moment où vous dépassez la 12e année de location, les dispositions protectrices sur le plafonnement de votre loyer ne s'appliquent plus. C'est-à-dire que les règles fixées par la loi qui sont en principe d'ordre public sur les révisions de loyer ne s'appliquent. Et donc, vous risquez des réclamations au titre de l'augmentation de loyer assez importantes.
En effet. Petite question annexe sur le renouvellement qui nous avait été envoyé un petit peu plus tôt au cours de la webconférence. Est-ce qu'on peut renouveler le bail à l'issue des 9 ans uniquement pour une seule année?
Non.
On repart sur 3 ans obligatoirement.
Exactement.
Très bien. Alors, il s'agit de notre dernière question, donc c'est pour faire patienter les personnes, et je m'excuse encore pour notre retard, mais le sujet impose quand même d'être assez précis. Alors, en guise de conclusion, Maître, pouvez-vous nous indiquer donc les points de vigilance les plus importants que doivent garder en tête les chefs d'entreprise avant de signer un bail commercial?
Alors, je ne rentre pas dans le détail. Hein. Moi, j'alerterai sur les questions de l'activité qui est prévue dans le bail, donc, de la sous-location, de la révision du loyer, bien vérifier de quelle manière votre loyer sera révisé, et également sur le renouvellement tacite, surtout, évitez-le. Et dernier point qui est formel, mais qu'on voit beaucoup quand les actes ne sont pas rédigés par des juristes, et même d'ailleurs par des juristes, c'est l'identité des parties, qui est extrêmement importante, puisque souvent, on a tendance à rentrer dans l'identité des parties le nom d'un groupe de sociétés ou une société sans l'appeler exactement par le nom auquel elle est censée s'appeler si on lève un cabis. Donc, c'est extrêmement dangereux. Mentionnez bien, quand vous renseignez l'identité des parties, le numéro de SIRN ou de RCS de la société, et vérifiez bien en demandant à un cabis pour renseigner tous les renseignements utiles qui sont l'identité de la société, que ce soit son capital social, son siège social et donc son SIRN. Point très important. Et effectivement aussi, souvent on voit société en cours de formation qui signe un bail. Je rappelle que société en cours de formation, c'est une personne qui n'existe pas. Et donc, si vous vous retrouvez devant le juge avec un acte comme ça, le juge vous dira que votre bail est nul, qu'il n'existe pas. En réalité, quand vous êtes encore en cours de formation, vous n'avez pas le droit de signer. C'est vous-même qui signez, donc monsieur un tel dirigeant à venir, qui signe. Et la société en cours de formation reprendra plus tard l'acte. Donc, c'est bien important de le préciser dans l'identité des parties.
Merci beaucoup, Maître. Donc, nous arrivons au terme de cette webconférence. J'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, le sujet, manifestement, vous intéressait beaucoup parce que vous nous avez fait parvenir énormément de questions. Donc, pour tout conseil juridique, n'hésitez pas à contacter Maître Gracien, dont je vous remets les coordonnées à l'écran. Et pour de l'information juridique, et si vous avez des questions plus vraiment de l'ordre de l'information juridique, n'hésitez pas à contacter nos juristes. Marine vient de vous transmettre le lien dans le chat. Alors, afin de m'assurer de votre satisfaction et dans le but surtout d'améliorer nos prochaines webconférences, je souhaiterais que vous puissiez nous donner votre avis sur celle-ci. Et là encore, Marine vous a transmis le lien pour le faire et je remercie par avance toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Ça nous aide vraiment grandement. Alors, je vous donne enfin rendez-vous pour notre prochaine webconférence qui aura lieu donc le 22 septembre à 14h. Donc, le sujet sera radicalement différent, mais vraiment d'actualité, puisque nous évoquerons le sujet de l'organisation des élections du CSE. Avec les ordonnances Macron de 2017, quasiment toutes les instances ont été renouvelées à peu près en même temps, à 12 mois d'écart. Et donc là, ces CSE ont atteint atteignent leur quatrième année sous peu et doivent être renouvelés. Donc, à peu près, on estime à peu près 80-90% des sociétés qui vont devoir organiser des élections dans les mois à venir. Et donc, nous avons souhaité vous aider à le faire en organisant cette conférence. Et là aussi, Marine vous a transmis le lien pour vous inscrire dans le chat. Donc, merci encore, Maître Gratien, d'avoir accepté d'animer cette webconférence. J'espère à très bientôt.
Mais également, merci à vous.
Et je vous remercie vraiment tous d'avoir assisté à cette première webconférence de reprise. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence de Jury Travail. Au revoir à tous.